Et ce matin, j'aimerais vous parler de la conversion de l'apôtre Paul. C'est un événement qui est tellement important que Luc le raconte lui-même dans les Actes des Apôtres. Et puis, deux fois, Paul lui-même prend la parole devant des autorités pour donner son témoignage, pour expliquer comment il s'est converti. Et je crois que nous voyons là l'importance du témoignage, l'importance que Dieu attache à notre témoignage en tant que chrétien. Et je crois que c'est important de souligner qu'un témoignage peut mener à la conversion de quelqu'un. Peut-être le témoignage le plus court dans la Bible est celui d'André, le frère de Paul. Et dans Jean 1:41, il va chez son frère et dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et le verset suivant, il le conduisait vers Jésus. Je trouve c'est magnifique, n'est-ce pas? Conduire quelqu'un vers Jésus par le témoignage. Nous savons très bien le résultat de ce témoignage et de cette conversion dans la vie de l'apôtre Paul. Je me souviens, pendant mon temps ici, que j'ai assisté à pas mal de baptêmes. Et chaque fois, il y avait le témoignage de la personne qui se faisait baptiser. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai trouvé que chaque témoignage était émouvant. Enfin, vous avez déjà constaté, je suis un homme un peu émotionnel. Et malgré mon arrière-plan britannique, le sang-froid que nous sommes censés avoir, enfin, si vous voulez voir, faire la connaissance d'un homme britannique, il faut faire la connaissance de mon fils. C'est lui le britannique vraiment par excellence. Je ne sais pas d'où il a hérité son sang-froid, mais pas de moi, de toute façon. Oui. Et je me suis bien servi de pas mal de mouchoirs en papier en écoutant des témoignages des personnes qui se faisaient baptiser ici. C'est vrai, parfois, des gens disent, oh, tu sais, mon témoignage n'a rien de spécial. Moi, je ne vois pas de haut fait dans ma vie. Jusqu'à présent, j'ai jamais été alcoolique ou drogué. J'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais frappé. J'ai jamais eu envie de boire une bonne tasse de thé anglaise, quelque chose, ou même d'entrer dans un restaurant anglais. Peut-être, oui. Une minute. Est-ce que vous savez comment il faut bien manger en Angleterre? Prendre le petit déjeuner 3 fois par jour. Enfin, voilà. Mais bon, quand même, je trouve que chaque témoignage a quelque chose de très important, quelque chose de très émouvant. Et en sachant que j'allais voir... Yvette et Jacqueline, je me suis souvenu du témoignage de votre maman, n'est-ce pas, quand elle s'est fait baptiser, elle avait l'âge de, je sais pas moi, 80 quelque chose. Et bon, j'ai bien utilisé des mouchoirs en papier ce jour-là. Et je crois que donc il faut, même si on dit, oui, je ne vois pas de haut fait dans ma vie jusqu'à présent, même si je suis un homme ou une femme normale, il ne faut pas oublier non plus que chaque conversion, chaque témoignage est le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Et on ne peut pas sous-estimer la puissance du Saint-Esprit ou l'honneur que cela rend à Dieu. Donc, maintenant, regardons un peu le récit. Voilà, donc le passage, oui, c'est assez long. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement mettre l'accent sur quelques points que je trouve importants. Donc, c'est la conversion de Paul sur la route de demain. Et j'aimerais diviser, enfin, la prédication comme un témoignage. On dit toujours quand on prépare quelqu'un pour le baptême, pour le témoignage, qu'on dit il y a 3 parties. Il y a la partie avant la conversion, il y a la conversion elle-même, et puis il y a la vie après la conversion. Donc, Si on prend la vie de Paul, enfin je vais dire Paul, hein, sinon je vais me tromper avec Saul, Paul. Hein, si on prend la vie de Paul avant sa conversion, on voit que dans les Actes, il est mentionné deux fois. Dans les Actes, dans le 7e chapitre, il est mentionné comme témoin de la lapidation d'Étienne. Et dans le chapitre avant celui-ci, hein, il est montré comme celui qui voulait détruire l'Église et les chrétiens à tout prix, en les jetant en prison, hommes et femmes. Et sa haine contre l'Église est graphiquement décrite ici dans le premier verset. Hein? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et j'ai trouvé, en préparant le message, que le verbe qui est utilisé pour respirant encore la menace est lié avec l'autre passage dans Actes 8:3, Saul, qui est traduit en français par Saul, ravager l'Église. Et ce sont des mots qui sont utilisés pour des animaux féroces qui détruisent. Et je crois que ça montre clairement la haine que cet homme avait contre des personnes, comme un animal. J'ai vu une fois une vidéo terrible où des lions essayaient de détruire un buffalo, un jeune buffalo. Et on voit, mais sans pitié, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, hein, et je crois que, enfin, moi, j'ai oublié ça un peu, n'est-ce pas? Cette haine, hein, de cet homme tout à fait possédé qui était seul avant sa conversion. Donc, qui aurait cru qu'un tel homme qui agissait comme un animal féroce serait jamais devenu chrétien, serait jamais devenu chrétien. Mais comme l'ange Gabriel disait à Marie, quand il lui annonçait qu'elle allait devenir enceinte, rien n'est impossible à Dieu. Donc ça c'est la vie de Paul avant sa conversion. Regardons maintenant la conversion elle-même. Il y a une courte histoire que j'ai lue quand j'étais enseignant ici à Bruxelles, hein, que j'ai lue aussi dans l'école où j'enseigne maintenant, hein, une histoire très courte, et si jamais vous avez l'occasion de la lire, je vous la recommanderai. Hein. Je peux vous fournir la traduction française si vous voulez. Et l'histoire s'appelle la loterie. Donc je ne sais pas, hein, quand vous entendez le mot loterie, vous pensez à quoi? Comment? Oui, hein, et gagner de l'argent, gagner quelque chose que tu n'as pas, quelque chose peut-être que tu espères va te rendre heureux. Donc déjà le titre, hein, nous prépare, soi-disant, n'est-ce pas, pour quelque chose de bien. Et l'histoire a commencé dans un village en Amérique, et pareil, c'est une tradition, chaque année, tous les villageois, hein, se réunissent, ils se mettent en famille, comme ça, et la tête de la famille va chercher un ticket, oh oui, c'est très bien, hein, et puis on rit, oui, c'est la même chose que l'année passée, blablabla. Et puis, à la fin de cette histoire, il y a, enfin, un événement tellement cruel, hein, quand c'est même, waouh, j'ai jamais pensé que l'histoire allait se terminer comme ça. Et pourtant, si on le lit une deuxième fois, l'histoire une deuxième fois, hein, on peut voir quand même quelques indices que l'auteur place à des moments précis, hein, et on dit, oh non, c'est vrai, nous sommes quand même préparés, hein, à la fin. L'événement ne devra pas nous tellement surprendre. Et j'aimerais suggérer ce matin que même si la conversion de Paul est quelque chose de tout à fait surprenant, ok, mais quand même il y a des indices avant que nous pouvons auxquels nous pouvons réfléchir, hein, qui à la fin dire ah oui mais bon, hein, on voit bien que cette conversion a été bien préparée par le Seigneur. Et pour moi, la clé se trouve dans le verset 5. Donc, c'est Paul qui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Bon, ce mot aiguillon est quelque chose d'intéressant. Parce que, j'appuie sur quel bouton maintenant? Parce que j'ai trouvé, disait Mark Broom, a fait du progrès dans la technologie. Voilà, merci. Donc ça, c'est un aiguillon, n'est-ce pas? Et il y a encore une image, après, tu veux... Oui, je veux. Oh, non. Ok, hop. Voilà. Mais je ne veux pas qu'on voit les trois aiguillons. Enfin, ne regardez pas les trois aiguillons, ok? Mais on voit bien ici, la personne au milieu, n'est-ce pas, a un aiguillon. Et c'est pour pousser, faire pousser, pour mener un animal à faire quelque chose qu'on veut, que ça fasse. Et j'aimerais suggérer ce matin qu'il y a trois aiguillons, n'est-ce pas, qui, c'est vrai, ne sont pas dans le récit, qui, c'est vrai, c'est de la spéculation, mais quand un homme comme John Stott, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de John Stott, c'est un grand théologien anglais qui est décédé il y a deux ans, vraiment un homme fantastique. Si jamais vous avez l'occasion de lire des livres de Stott, c'est un enseignant fantastique, franchement. Donc, le premier de ces aiguillons est probablement, enfin, c'est la spéculation, mais quand même, je crois qu'il y a des raisons bien précises qu'on peut souligner et mettre en évidence. Donc, le premier aiguillon était probablement sa propre expérience. Il a vécu en même temps que Jésus. Et en tant que pharisien, il est allé certainement au temple pour prier. Et nous savons aussi que Jésus aussi allait au temple. Donc, probablement, il a eu l'occasion d'entendre Jésus parler quand il prêchait dans le temple. Et peut-être que cela a semé des doutes. Et puis on se dit, mais comment un homme comme Paul ici, qui agissait comme un animal féroce contre l'Église, comment est-ce que c'est possible qu'il avait des doutes dans ce qu'il disait? Bon, on cite le philosophe Jung. Le philosophe Jung. Et il dit, le fanaticisme n'est trouvé que chez des personnes qui veulent détruire des doutes secrets. Bon, je crois que nous sommes d'accord que Paul était un homme fanatique, vraiment, un homme possédé, un homme qui agissait comme un animal féroce. Mais Jung dit, ok, mais le fanaticisme n'est trouvé que chez des personnes qui veulent détruire des doutes secrets. Deuxième aiguillon, voilà, témoignage d'Étienne. Il était là quand il a vu Étienne lapidé. Et on se souvient, n'est-ce pas, de cette mort. On se souvient de ce témoignage. Et on se souvient de la façon dont il a été lapidé et sa dernière prière, Seigneur, pardonne-le, comme Jésus lui-même a prié. Donc ça aussi a dû avoir un effet sur lui, voir un homme comme Étienne lapidé. Et le troisième aiguillon était la prière. J'ai entendu une prédication une fois, probablement ici, où le prédicateur disait que la conversion est toujours d'une personne est toujours le fruit de la prière de quelqu'un. C'était notre cas. J'ai eu une tante qui a dit, Alain, tu sais, dès ta naissance, j'ai prié pour toi. N'est-ce pas? Et j'ai eu la joie elle a eu la joie aussi de prier ensemble en tant que chrétien. Et la première église, dans un des quatre piliers, était la prière, a certainement prié pour que cette persécution de la part de Paul s'arrête. On avait chez nous, dans notre église en Allemagne, un homme, un frère très cher, mais il nous énervait. C'était un homme, tu avais peur de dire, oh, le temps est mauvais aujourd'hui. Mais c'est ce que Dieu veut, donc il faut l'accepter comme c'est, parce que Dieu a décidé ainsi. Tu vois un peu le genre. Et il avait raison, évidemment, mais on avait peur de, d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il fait chaud, s'il faisait chaud, oui, mais comme ça, les plantes vont pousser. S'il fait froid, oh, mais oui, mais il faut que les insectes soient détruits, etc., etc. Donc, finalement, personne ne parlait souvent avec lui, non. Mais ce qui était bien chez ce garçon, n'est-ce pas, quand on parlait des personnes qui avaient fait quelque chose de mal, hein, un criminel qui avait volé ou quelque chose dans le journal, et Dieu sait qu'il n'y a pas assez d'événements pour le moment, n'est-ce pas? Il a dit, oui, mais il faut prier. Il faut prier pour cette personne. Et ce matin, en réfléchissant à cela, je me suis dit, mais Broom, est-ce que tu pries pour ces jihads? Je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'il y a 500 citoyens britanniques comme moi, musulmans, n'est-ce pas, qui sont entraînés maintenant en Syrie ou en Irak, c'est pas moi, n'est-ce pas, hein, pour massacrer les gens. Et on a peur maintenant que ces gens, un jour, vont revenir en Angleterre, en Grande-Bretagne, n'est-ce pas, et vont faire des ravages, comme ils ont déjà commencé, hein, il y a 10 ans, le 7 juillet, il y avait aussi des explosions dans le métro londonien, dans un bus, hein, des autres attentats contre un hôpital, et c'était un docteur même, hein, qui essayait de détruire un hôpital. Enfin, on voit un peu l'ennemi, hein, et c'est vraiment, c'est un ennemi, mais est-ce qu'on prie pour la conversion de ces gens? Parce que si un Paul a été converti comme cela, hein, un homme qui ravageait des églises, menaçait, faisait des meurtres, etc., etc., mais le Dieu qui a opéré cette conversion peut aussi opérer un miracle dans la vie de ces personnes. Bon. Maintenant, j'ai trouvé une image qui montre, j'espère... Ah, je sais pas qu'il veut... Voilà. C'est un tableau qui montre un peu l'image de la conversion. Ça, on ne voit pas très bien. Enfin, je vais essayer de dire ce que j'ai trouvé dans cette image, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une image tout à fait surprenante, dramatique, n'est-ce pas? Et on voit, hein, le cheval sur son dos, la crainte des compagnons de saut de Paul, et les yeux non voyants. Enfin, vous ne voyez pas, mais croyez-moi que quand on regarde les yeux, hein, on voit qu'il est déjà aveugle. Et partout, hein, on voit la lumière, la gloire de Dieu représentée par Jésus. Mais à mon avis, cette image ne raconte pas toute l'histoire de la conversion de Paul. Pour moi, je n'ai pas trouvé malheureusement, il doit y avoir une deuxième image qui montre la conversation entre Paul et Jésus. Parce que ce que je trouve ici, hein, on voit que Jésus ne met pas, c'est pas un lavage au cerveau, n'est-ce pas, de la part de Jésus vis-à-vis de Paul. Il pose une question importante. Au verset 4, il dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Donc, Paul doit utiliser son intelligence et son raisonnement. Pourquoi ? Raisonnement. Pourquoi tu me persécutes ? Hein? Et malgré l'état dans lequel il se trouve, hein, il doit toujours utiliser cette intelligence. Et de son côté, Paul montre aussi qu'il reste maître de son intelligence, parce que il répond lui-même en posant deux questions. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Moi, j'ai été converti à une convention de Billy Graham. Et évidemment, je ne regrette jamais cela. Et je respecte beaucoup ce que la convention. Mais ce dont je me souviens, hein, malheureusement, je me souviens pas de son message qui m'a mené à demander au Seigneur de venir dans ma vie. Mais je me souviens que avant, hein, pendant une heure, il y avait de la musique. Hein, il y avait une atmosphère un peu émotionnelle.
Hein, Jésus, quand je regarde ça maintenant, hein, oui, évidemment, ça a un effet dans ma vie, hein, dans ma vie. Mais j'ai peur parfois que on met les gens sous pression sur leurs émotions, au lieu de respecter leur intelligence, au lieu de respecter leur intelligence. Et je crois que Dieu veut que on fasse une décision, hein, en acceptant pleinement, de tout cœur, hein, ce qu'il a fait et dans notre vie et ce qu'il veut dans notre vie. Il veut que nous prenions ces décisions de notre propre volonté. Et si vous lisez les actes après, quand Paul va dans d'autres villes, n'est-ce pas, dans ses voyages missionnaires, c'est frappant de voir aussi sa technique. Hein, il parlait. Il prêchait dans la synagogue. Il parle avec d'autres. Il essaie de convaincre. Il essaie de raisonner. Il y a un livre écrit par un Américain. Enfin, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le lire. Hein. Il s'appelle McDowell, Josh McDowell. Hein, depuis des années, il travaille. Enfin, c'est dommage, j'aurais pu apporter ce livre, mais c'est deux fois plus épais que ma Bible ici. Et dans ce livre, il donne toutes sortes de chapitres pour montrer intellectuellement, n'est-ce pas, qu'on peut croire à ce que Jésus a fait. On peut croire que Jésus a existé. On peut croire à la crucifixion. C'est fantastique. Et puis, il y a des chapitres qui disent l'authenticité de l'Ancien Testament, l'authenticité du Nouveau Testament. Et puis, il utilise dans d'autres chapitres des mots que je ne comprends pas, mais qui sont là pour montrer que le christianisme vis-à-vis d'autres religions, n'est-ce pas, est le bon. Et ça, c'est ce que moi j'essaie de faire, j'ai un travail vraiment très intéressant. La plupart des clients qui viennent dans notre école de langue sont seuls, donc c'est un enseignement individuel. Et cela nous donne la possibilité de faire la connaissance de ces personnes, n'est-ce pas? Parfois ils sont très 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 ouverts, hein, avec moi. Je vous dis vraiment, j'ai eu des dames qui viennent et qui pleurent, hein, pas à cause de ce que j'ai dit, mais parce qu'ils ont des problèmes. Hein. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais, tu as un visage très paternel. Hein? Je crois que ça c'est un compliment que vous voulez me donner. Hein? Mais donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, n'est-ce pas, de les convaincre. Mais jusqu'à présent, je crois que mon rôle est plutôt de semer, hein, que de voir le fruit d'une conversion. Ok, maintenant on arrive à la troisième partie, c'est-à-dire après la conversion. Voilà. Et je trouve ici, c'est aussi une image qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Je ressens ici une atmosphère de calme, de paix. L'homme est changé. Pas parce qu'il est aveugle, mais peut-être oui, il est aveugle. Donc, lui est passif. Il ne peut pas voir. Il dépend des autres pour continuer sur le chemin vers Damas. C'est plus l'ancien pharisien, puissant, dominant, maître des événements. Mais c'est maintenant un homme humble. Il doit attendre. Il doit attendre que Jésus agisse encore une fois dans sa vie. Et pourtant, nous constatons que il y a des éléments de son ancienne vie qui restent. Hein, dans le verset 9 et le verset 11, hein, nous voyons qu'il jeûne et qu'il prie, comme il a fait avant sa conversion. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, je crois qu'il le fait, pas parce que c'est la loi, tu dois le faire, n'est-ce pas? Pour gagner des points, pour ainsi dire. Non. Il le fait parce qu'il le veut, parce qu'il sait qu'en jeûnant et priant, c'est la façon de se mettre en rapport avec Dieu et approfondir sa relation. Et après, il prêche, verset 20, il prêche, hein? Mais c'est une autre prédication qu'avant, n'est-ce pas? Et il ne sait pas encore tout. Hein? On lit, je crois, dans l'épître aux Galates, hein, qu'il passe 3 ans en communion étroite avec Dieu. Hein? Et grâce à cela, nous avons les épîtres, hein? et tout le reste. Mais il prêche ce qu'il sait, que Jésus est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et ça, c'est le message tout simple. Hein? C'est le message que nous avons aussi annoncé ce matin, entre autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit nous encourager à parler de notre foi. Ma mère n'était pas une grande théologienne quand elle a donné son témoignage. Et pourtant, ça a frappé sa famille. N'est-ce pas? Nous ne devons pas être des grands théologiens. Hein? Quand Pierre et Jean se sont montrés devant le Sanhédrin, n'est-ce pas? Ils ne commençaient pas à donner les raisons pourquoi on peut croire à l'authenticité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ils ont parlé avec autorité, Jésus est le Fils de Dieu, et vous l'avez crucifié. Moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique, hein, qu'ils se mettent devant ces grands hommes et disent, vous êtes des hommes et des femmes, des hommes qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a un autre homme qui entre en scène. Et ça, c'est Ananias. On dit Ananias en français. C'est ça. Hein? Le verset 10 parle d'Ananias. Et nous voyons que c'est un disciple de Jésus. Tout de suite, il est disponible. Me voici, Seigneur, quand Jésus lui parle. Et on voit aussi son humanité, n'est-ce pas? Le fait que... Tu veux vraiment que hein, je parle avec cet homme? Mais j'ai entendu parler de lui. C'est un homme, n'est-ce pas, qui est l'ennemi de ton Église, n'est-ce pas? Mais, après avoir entendu encore une fois Jésus, il est prêt à mettre à côté ses objections, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ses réserves, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est fantastique dans le verset 17. Tu peux montrer ça? Quand il va vers Saul, il dit, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Ici en Belgique, vous avez l'habitude de vous embrasser quand vous voyez. C'est très bien. C'est très bien. Et au début, c'est un peu difficile pour moi de m'habituer à cela. Quelqu'un qui avait une barbe ou une moustache, voulait essayer d'éviter. Hein, et puis, on sait avec quel jeu est-ce qu'on commence. Hein, est-ce que c'est deux fois? Est-ce que c'est trois fois? Hein, c'était quand même un peu compliqué. Mais au début de mon temps ici, personne ne m'embrassait. Hein, c'était, ah, bonjour, hein, on se donnait la main. On se donnait la main. Et je me souviens, c'est grâce à la construction, surtout, on commençait à m'embrasser. Hein? Et Étienne Braque, hein, qui était là à ce moment-là, il m'a dit, tu sais, tu es l'un d'entre nous, l'un de nous maintenant. Hein, et ça m'a fait tellement du bien de savoir, ah, je fais partie, n'est-ce pas, de cette église. Et je crois que pour Paul à ce moment-là, hein, quand Ananias a dit, mon frère, ah, je suis là, hein, j'appartiens à ce groupement maintenant. C'est pas explicitement marqué dans le texte, mais on peut croire, je crois que Ananias a baptisé Saul, il lui a donné à manger, intéressant. Donc, c'est pas simplement l'aide spirituelle qu'il a apportée à Saul, Paul, mais aussi l'aide sociale. Et je crois que il est important qu'il y ait des Ananias dans une église. Pour aider de nouveaux convertis, pour les accueillir, pour les tenir, et pour les aider à grandir dans leur foi. Et je pose la question, est-ce qu'il y a des Ananias ici? Des gens qui sont prêts à aider de nouvelles personnes, qui sont capables de les aider à grandir dans leur foi? Dans notre église, nous avons une église très petite, hein, enfin, vous le savez, hein, si tout le monde est là, peut-être nous sommes 15. Hein, et c'est une église où je suis presque la personne la plus âgée. Oui, enfin, ça vous pouvez bien croire, je suppose. Je crois qu'il y a une dame de 80, enfin deux dames de 80 qui sont plus vieilles que moi, n'est-ce pas? Donc le futur long terme de cette église semble être quand même un peu menacé, n'est-ce pas? Et on se réfléchit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cours Alpha. C'est un cours assez connu. Mais nous avons décidé de ne pas faire ça. Nous avons décidé de faire un autre cours qui s'appelle en français « À la découverte de la vie chrétienne ». Mais ce qui est important dans ce cours, c'est d'avoir des personnes qui sont prêtes à aider des personnes qui vont se convertir. Donc c'est un cours qui dure 10 semaines, hein, à peu près. Et des sujets sur la vie chrétienne chaque semaine. Des discussions et tout cela. Hein, on met quelque chose sur la table, on mange aussi. Hein, et les membres de mon étude biblique ont été un peu formés maintenant, n'est-ce pas, pour aider d'autres personnes qui auront des questions. Donc si vous pouvez penser à cela, hein, ça serait très gentil dans vos prières. Peut-être je peux aussi vous dire, Annette et moi, nous prions pour vous. Chaque fois qu'on se prie ensemble, chaque soir, nous prions pour vous, pour cette église. Nous devons tellement à cette église de Louvain-la-Neuve. On prie surtout pour les anciens. Hein. Vous avez besoin de beaucoup de sagesse. Oui, je connais aussi les membres ici. Hein. Non, je dis ça par blague. Hein, mais on prie aussi pour les membres. Pour le moment, on prie beaucoup pour la famille Vanticom. Hein, et quand je vois ici les places vides, ça fait mal au cœur. Hein, donc j'espère qu'un jour, on vous verra ici, devant, n'est-ce pas? On va peut-être enlever la poussière. Hein, comme ça, vous prenez votre place de nouveau ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais à cœur à vous dire aujourd'hui pour vous encourager. N'est-ce pas, donner votre témoignage, pour prier pour des personnes qui sont dures, il semblerait. J'ai un cours de dame charmante, hein, et j'ai passé 1h30 l'autre soir en essayant de les convaincre. Et elles me disent, enfin, oui, on croit, hein, on croit, mais pas dans ton Dieu. Tu sais, et vraiment, ça m'a... Et j'ai ressenti quand même une puissance. Puissance. J'ai trouvé un verset dans Éphésiens et c'est marqué, pas vous êtes dans les ténèbres, mais vous êtes ténèbres, les non-convertis. Et j'ai vraiment ressenti la puissance hein, du diable hein, dans les ténèbres. Donc, priez s'il vous plaît pour nous dans notre petite église et nous allons continuer à prier pour vous ici à Otigny. Merci.